parler la langue de l'autre pour pouvoir lire en version originale Heiligspöhn ou Albert Camus. C'était deux auteurs entrés dans l'histoire de la littérature du XXe siècle. Mais en utilisant la langue du voisin, on entre dans le rapport qu'il a au monde, on entre dans l'histoire du voisin et on entre dans l'histoire de la civilisation et dans l'histoire de la culture du voisin. Or, avec la question également très actuelle de l'éventuelle utilisation de la langue anglaise dans l'enseignement supérieur en France, ou en tout cas dans une partie de l'enseignement supérieur en France, nous voyons bien que quand nous allons par exemple à Weimar, regarder Goethe et Schiller, quand nous commandons un gâteau et un thé à une charmante serveuse qui nous parle anglais, nous avons tendance à dire, écoutez, juste la preuve du contraire, Goethe et Schiller n'ont pas écrit en anglais. Donc, cette question de la langue est une question un peu plus fondamentale pour les raisons que je viens d'expliquer, et aussi parce qu'il faut maintenant, un demi-siècle après ce traité majeur, il faut rafraîchir la relation entre les deux nations en ce qui concerne les nouvelles générations. Les jumelages entre les communes, les correspondants, les Brieffreunde, à l'époque où il n'y avait ni Internet, ni les réseaux sociaux, tout ça doit évidemment être réactivé pour que ce dialogue qui a été entrepris et concrétisé par un traité d'amitié et d'aide entre les deux pays en 1963 puisse prendre une tournure qui soit tout à fait actuelle. Et je le dis avec beaucoup d'amitié, de respect, d'affection pour nos aînés. Il y en a dans cette salle un certain nombre aujourd'hui qui ont tellement lutté pour que cessent les préjugés. Et Dieu sait ce que cela a représenté pour certains d'entre nous dans l'expérience de leur vie. Il faut maintenant que les jeunes générations s'emparent de ce rapport, qui a pris évidemment en particulier une forme tout à fait actuelle il y a maintenant un peu plus de 20 ans avec la naissance d'Arte. Vous vous rendez compte ce que c'était qu'Arte, ce qu'a été la naissance d'Arte il y a maintenant un peu plus de 20 ans, et on s'en rend d'autant plus compte quand on parle avec Catherine Trottmann, dont Catherine Trottmann écrit les souvenirs des combats qu'il a fallu livrer en France et en Allemagne pour créer cette télévision absolument unique et singulière en son genre. Catherine, tu as parlé aussi d'économie. Et quand on parle d'économie, on voit bien que, quel que soit le pays dont il est question, la doctrine économique de ce pays, la vision de l'économie dans un pays ou dans un autre, ne peuvent pas forcément être identiques. C'est lié, bien entendu, à l'histoire économique, dont je suis tout sauf un spécialiste. C'est lié aussi à la pensée des économistes, et c'est lié en particulier, en ce qui concerne l'Allemagne, aux théories formulées dans les premières années du XXe siècle par Max Weber, puisque Max Weber a en particulier mis en parallèle la vision de l'économie telle qu'elle est selon que l'on professe la foi réformée ou que l'on est parmi les catholiques. Et on voit bien qu'en pénétrant dans cet univers de Max Weber, qui nous introduit bien entendu à l'intérieur de l'histoire économique de l'Allemagne, on voit bien que l'Allemagne campe sur une position que l'on sait aujourd'hui, positions qui ne sont pas nouvelles, pour des raisons également historiques. Il y a eu la catastrophe de la guerre de 30 ans. Je fais court. Il y a eu la Première Guerre mondiale. début de la première République allemande, c'est-à-dire ce que l'on appelle la République de Weimar, puisqu'elle siégeait à Weimar de manière à ce que les parlementaires soient au calme, et du égard au climat de guerre civile et d'armée, selon commençant à se développer, comme on sait, à partir de 1918. Donc, dans la République de Weimar, en particulier, pour soutenir les efforts demandés à une population qui est exsangue, on va régulièrement rappeler la haute figure du fondateur de la parsimonie allemande, hein, Deutsche Sparsamkeit, c'est-à-dire Frédéric le Grand. Frédéric le Grand, le roi de Prusse, chez lui, à Potsdam, à Berlin, est un souverain qui, par le train de vie décent, qui est le sien, donne l'exemple. Et il y a toute une histoire de la doctrine économique stricte, parcimonieuse, représentée par la figure de Frédéric le Grand, qui accompagne l'Allemagne au temps de la République de Weimar, qui ensuite est récupérée, comme tant d'autres valeurs, par le national-socialisme pour demander un effort aux Allemands. Et encore, à partir de 1949, lorsque la Seconde République, c'est la Seconde République de l'histoire allemande, qui est proclamée, avec pour conséquence notamment l'adoption du Grundvertrag, c'est-à-dire la loi fondamentale, l'équivalent de la Constitution, on se réfère encore à cette tradition de l'économie de Frédéric le Grand. Cette tradition de l'économie raisonnable, modérée, pondérée, est toujours là. C'est une constante. Et c'est une constante que l'on trouve évidemment dans les phénomènes macroéconomiques, mais que l'on trouve aussi dans les phénomènes microéconomiques. Je vais maintenant vous en donner deux exemples que j'emprunterai au monde de la culture et plus particulièrement au monde de la musique. Premier exemple, pourquoi est-ce que la plupart de nos solistes, pianistes, violonistes, chanteurs, chefs d'orchestre français de très haut niveau se produisent si peu en Allemagne? Parce que on paye en Allemagne entre 30 et 50% moins les cachets des artistes. Deuxième exemple, et là, on est sur la question des préjugés. On sait bien que les chanteuses et les chanteurs qui se produisent au festival de Salzbourg, en Autriche, reçoivent des cachets considérables. Et on a tendance, par ricochet, à s'imaginer qu'il en va de même pour les artistes qui chantent au festival de Bayreuth. Or, le festival de Bayreuth est d'abord une institution qui travaille 10 mois sur 12 avec un personnel composé de 55 personnes. Sur 12 mois d'activité, vous en avez un qui est celui des vacances, vous en enlevez un autre qui est celui du festival, parce que le festival de Bayreuth dure pendant un mois. Pendant un mois, les 55 permanents du festival de Bayreuth sont évidemment aidés par 200 personnes qui ont un contrat à durée déterminée. Mais pendant les 10 autres mois de l'année, cette institution musicale de célébrité mondiale, ce rêve absolu pour tant de mélomanes, fonctionne avec 55 permanents. D'autre part, on considère que pour des chanteuses et des chanteurs prestigieux, chanter sur la scène de Bayreuth est un honneur immense, un honneur qui doit être accompagné d'un effort financier, tant et si bien que les cachets versés au festival de Bayreuth à des artistes tels que Jonas Kaufmann, par exemple, sont des cachets qui sont modestes. Et si les agents des artistes insistent un peu auprès de la direction du festival pour obtenir on leur répond avec élégance, vous savez, chanter ici, c'est un investissement. Parce qu'une fois qu'on a a chanté ici, on peut chanter dans les autres très grands théâtres du monde, à des tarifs évidemment beaucoup plus confortables. Donc, vous voyez que, au travers de ces exemples, qui sont des exemples évidemment de micro, et non pas de macroéconomie, on aborde un phénomène qui est tout à fait intéressant. Ce phénomène ramené au panier de la ménagère, si je peux m'exprimer ainsi, ce phénomène fait aussi qu'aujourd'hui, pour cette raison, mais aussi pour d'autres raisons, il y a 30 000 Françaises et Français qui se sont installés à Berlin. La différence, c'est que, je dis bien à Berlin, je ne parle pas de Munich, parce que une nuance est évidemment très, très importante. La différence, c'est que quand on est jeune, quand on étudie, dans le cadre d'un programme Erasmus en particulier, ou bien quand on est artiste, par exemple, un plasticien, un vidéaste, on est beaucoup mieux à Berlin qu'à Paris en particulier, ce qui paraît qu'en France, tout doit passer par Paris. On est beaucoup mieux là-bas, à cause de la mixité de l'Italie. On est dans un schéma de consommation qui est différent, et on est, par contre, dans un schéma fiscal qui est plus lourd en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, mais qui est beaucoup plus léger en ce qui concerne les transactions immobilières. En tout cas, dans le Land de Berlin, puisque les textes en la matière